Si vous avez vos Bibles avec vous,
turn with me to the book of John, chapter 14.
Jean, chapitre 14.
We are studying the book of John together,
nous étudions le livre de Jean ensemble, et nous allons le faire de manière un peu différente aujourd'hui, parce que nous allons regarder tout un chapitre,
some of which we have already covered.
Et des parties que nous avons déjà couvertes.
So I'm going to read the entire chapter,
je vais lire tout le chapitre, et ensuite nous allons prier, et nous allons creuser.
John, chapter 14,
Jean, chapitre 14, verset 1.
Let not your hearts be troubled.
Que votre cœur ne se trouble pas.
Believe in God,
croyez en Dieu,
also in me.
Croyez aussi en moi.
In my father's
Il y a beaucoup
house
de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.
Thomas
lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera sur vous, en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas Iscariot qui l'a trahi, l'autre lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Prions. Seigneur, alors que nous nous tournons vers ces mots de ton Fils, Seigneur, je prie que ton esprit puisse ouvrir nos yeux. Je prie que ton esprit puisse désendurcir nos cœurs, attendrir nos cœurs et nous transformer ce matin. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, je prie que tu puisses dépasser toutes les barrières de langue qui nous empêchent de bien communiquer ensemble et que tu puisses parler directement à nos cœurs par ton esprit avec une clarté et avec puissance pour ta gloire, je prie, au nom de Jésus. Amen. Dans le contexte de l'époque, Jésus prépare ses disciples à son départ. Il va être crucifié dans peu de temps, relevé d'entre les morts, monté au ciel, et il va être physiquement parti. Et ses disciples qui ont été avec lui pendant 3 ans se demandent, mais comment on va faire? Comment est-ce qu'on va vivre sans sa présence physique? Il dit qu'il s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Jésus, dans cette section des Écritures, qui va de Jean 14 à 16, commence à leur dire comment ils vont survivre sans lui. Et alors qu'il fait cela, il nous donne à nous des indices très pratiques et concrets sur comment nous devons suivre Christ. Et donc, j'ai intitulé ce sermon quatre challenges remplis d'espoir. Parce que dans cette section des Écritures, Jésus déclare quatre idées principales, quatre concepts qui peuvent nous remplir d'espoir, mais qui sont également des challenges pour nous. Et nous allons regarder chacun de ces quatre challenges que je vois dans ce passage, et nous allons nous arrêter et répondre. Nous allons donner une chance à Dieu de parler à nos cœurs par rapport à ces quatre challenges. Alors, regardons le premier de ces challenges que je vois. C'est le suivant. Allez, technologie, allume-toi. Allez, c'est bon. Le premier que je vois, c'est celui-ci. Jésus demande à ses disciples de l'aimer de manière extravagante. De l'aimer de manière extravagante. Plusieurs fois dans ce passage des Écritures, il est marqué « si vous m'aimiez », il suppose qu'il y a une relation d'amour entre eux et lui. Ça fait 3 ans qu'ils sont avec lui. Ils ont entendu parler. Ils se souviennent de ce qu'il a dit. Il dit des choses comme le plus grand des commandements est celui-ci, aime le Dieu, Seigneur ton Dieu, avec tout ton cœur, tout ton esprit, toute ta force. Nous devons être extravagants et radicaux dans notre amour pour Dieu. Ça doit être la fondation, le fondement de notre vie. Une des joies que j'ai eues dans les 5 dernières années, en travaillant avec beaucoup d'étudiants universitaires qui viennent ici à Strasbourg, ils sont à une étape de leur vie où ils se demandent « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ?» Et c'est quelque chose que c'est quelque chose qui dure dans nos vies. On n'est pas jamais vraiment cette question, mais ces années d'université sont vraiment le moment où on doit se trouver une direction, savoir vers où on va s'orienter. On a des discussions sur comment discerner la volonté de Dieu pour nos vies. Et c'est intéressant parce que, habituellement, je me retrouve en train de leur demander de les challenger sur ce point-là. Parce que très très souvent la question c'est, vous savez, est-ce que je devrais être un docteur, ou est-ce que je devrais être un avocat, ou un cuisinier, ou qu'est-ce que je devrais faire? Quelle occupation, quel travail Et moi, je leur dis, je vous mets au challenge avec cette pensée. Pourquoi d'abord faire une priorité dans votre vie, la priorité de votre vie entière, l'objectif de votre vie entière? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas plutôt d'aimer Jésus à fond, de manière extravagante, radicale? Ah oui, mais je veux savoir ce que je dois faire. Eh bien, si tu commençais là, si tu commençais par dire le but de ma vie pour les prochaines 50, 60 années, c'est d'aimer Jésus. C'est ça, ça va être mon goal et ma priorité. Et où que cet amour m'emmène, c'est OK. Parce que c'est ça, ma priorité. Très souvent, en tant que chrétien, je pense que nous supposons « Ah oui, c'est bon, ça sera ma priorité. Ouais, » ouais. Mais on n'en fait pas vraiment une priorité. Et dans Marc, chapitre 12, une conversation intéressante. Dans Marc 12, les pharisiens se disputent et les autres maîtres de la loi. Donc dans Marc 12, 28, ils demandent à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et c'est là que Jésus répond. Le plus important,
The Lord our God, the Lord is one.
Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et le scribe répond, lui répond, le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
Donc,
le spécialiste de la loi est d'accord avec Jésus. Et Jésus dit cela. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu.
You've got it right theologically.
C'est bien, tu as raison théologiquement, tu comprends.
This is the great commandment, to love him with everything you have.
L'aimer avec tout ce que tu as.
And the unspoken thing
et ce qui n'est pas dit et qui se passe là, c'est ça.
Jésus is God.
Et Dieu qui est venu dans la chair. Et la question qui n'est pas dite là, c'est la question du spécialiste de la loi, c'est est-ce que la question qu'il donne au spécialiste de la loi, c'est est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes avec tout ce que tu es, tout ce que tu as, ou est-ce que tu connais seulement la théorie? Est-ce que tu m'aimes réellement? C'est ça que Jésus dit au spécialiste de la loi. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais tu n'es pas encore dedans. Mais tu n'en es pas loin. Et le pas qu'il l'appelle à faire, c'est un pas d'amour extravagant. Qui lui dise, Jésus, je vais t'aimer avec tout ce que j'ai. Ce type d'amour est souvent décrit comme l'amour entre un mari et une femme, l'image du mariage, du partenariat qui est le mariage, cette histoire d'amour. Et dans 2 Corinthiens, Paul écrit qu'il est effrayé.
Et que juste comme,
tout comme Ève a été influencés par le serpent dans le jardin d'Éden, que nous puissions aussi être influencés et ne pas être dévoués complètement à Jésus. Parce que c'est ce que Satan essaye tout le temps de faire. Il essaye de nous faire miroiter des choses que nous allons aimer plus que Jésus. It may be a job. Ça peut être un travail.
It may be our children.
Ça peut être nos enfants.
It may be a television show.
Ça peut être une émission télévisée. Ça ne fait aucune différence pour Satan, ce qu'il utilise, mais il fait miroiter ces choses devant nous en essayant de nous distraire, de nous distraire de notre tâche qui est d'aimer Jésus avec tout ce que nous avons. Donc c'est ça le premier challenge pour nous ce matin.
Alors,
on va prendre 2 minutes de silence.
Et
on va juste dire, c'est un moment de réflexion.
Et
on va se demander à nous-mêmes, est-ce que nous aimons Jésus avec tout ce que nous avons? Ou est-ce qu'on a laissé d'autres choses prendre la place dans notre cœur? Prions.
One of the things that Jesus says over and over again in this passage of Scripture is love for him.
Une des choses que Dieu dit dans ce passage, c'est que l'aimer lui, ça amène à l'obéissance de ce qu'il dit. Que le vrai amour, ça nous aide à suivre ses commandements. Ça nous aide et ça implique de suivre ses commandements. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes mots.
Whoever does not love me,
celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes commandements.
You are my friends.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé.
And this is the second of the challenges, the hope-filled challenges.
C'est ce challenge rempli d'espoir.
Jesus is saying, if you love me, you will do the things that I say. There are a lot of people who love the idea of Jesus. They like the idea that Jesus is the savior from sin. They like the idea that Jesus is this gentle, loving person.
Mais, ils ne sont pas intéressés par ce qu'il faut faire, parce qu'il leur dit de faire. Et Jésus dit, c'est pas du vrai amour. Ce n'est pas un vrai amour pour moi si vous m'aimez pour qui je suis. Et je suis le Dieu qui sait tout, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui est tellement aimant. Si vous m'aimez vraiment, alors l'obéissance à ce que je dis est la seule réponse logique. C'est la seule réponse logique. Aux États-Unis, dans les églises où j'ai été, il y a eu une espèce de réaction à des tendances légalistiques de suivre les règles à la lettre,
où
les églises se sont mises à faire des règles pas bibliques que les gens devaient suivre. Et la réaction à cela est qu'il y a eu un message de grâce, que Dieu nous aime, qu'il prend soin de nous, qu'il se charge de nos péchés. Et le résultat a été que les gens ont un peu oublié cette idée que l'obéissance est importante.
Mike Bickle, who runs a 24-hour-a-day prayer ministry,
qui dirige un ministère de prière 24 heures sur 24, dit cela. C'est populaire aujourd'hui de minimiser l'obéissance. Tout ça pour magnifier la grâce de Dieu. Certains prêchent un message de grâce qui est distordu, qui met l'accent surtout sur la liberté du pardon, mais qui sous-estime la nécessité d'aimer Dieu dans un esprit d'obéissance. Mais la grâce biblique, le message vraiment biblique de la grâce, ne minimise jamais cet aspect d'obéissance.
Vous
voyez, les commandements, le commandement de Jésus amène à une relation plus profonde avec lui. Si nous désobéissons à ses commandements, ça nous emmène à l'écart d'une relation avec Dieu. Et donc, ceux qui veulent vraiment suivre Jésus, ils sont attirés par l'obéissance à ses commandements. Ils veulent suivre son modèle et ce qu'il dit. Il y a deux ou trois cents ans aux États-Unis, il y avait un truc de livraison, un boulot de livraison, qui cherchait des gens. Vous voyez partout à Strasbourg, là, les livraisons en vélo, avec les gros sacs à dos carrés, ils font du vélo, ils se faufilent entre les voitures. Si vous conduisez, ça vous effraie parce qu'ils faufilent partout. Ils filent, et ce sont des jeunes adultes mâles, des jeunes hommes, qui ont l'énergie et qui osent faire ça. Et il y a 200 ou 300 ans, le service de livraison aux États-Unis était un peu comme ça. Ça employait des jeunes hommes avec des carrioles avec chevaux. Et un des rôles le rôle d'une personne était de faire les interviews, l'entretien d'embauche. Et il leur demandait à quelle distance du bord de la falaise ces conducteurs de carrioles étaient prêts ou capables d'aller sans tomber de la falaise. Oui, la vitesse était importante, mais quand on prend des virages rapidement, on se retrouve près du bord de la falaise. Et il leur dit, alors jusqu'à quel point vous pouvez vous approcher du bord sans tomber? Et ces jeunes hommes racontaient des histoires en disant, j'ai déjà traversé la montagne avec une des roues qui était dans le vide, mais je suis tellement bon que j'ai réussi à ramener la carriole sur le chemin. Ah, ça sert à rien, moi j'avais deux roues dans le vide et j'ai réussi à ramener la carriole. Et le troisième candidat leur a dit, je ne sais pas, aucune idée. À combien je peux m'approcher du bord? J'ai jamais essayé d'aller près du bord. Je me suis toujours resté près de la montagne où c'est plus sécure. Parce que ma priorité, à moi, c'est d'arriver à bon port, c'est pas d'être plus rapide. Et c'est celui qui a eu le job. Celui qui est resté près de la montagne c'est celui qui a eu le boulot. Il était celui qui a été récompensé. Et de la même manière, nous avons à nous demander qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs ? Est-ce qu'on recherche de voir à quel point on peut s'approcher du bord sans passer par-dessus ? Ou est-ce qu'on recherche plutôt de dire est-ce que je peux rester vraiment tout proche de la montagne ? Est-ce qu'on veut savoir combien de péchés on peut faire dans ma vie et toujours être OK ? Ou est-ce qu'on recherche l'obéissance à rester bien droit dans notre chemin ? C'est ça la prochaine question. Est-ce que notre amour pour Jésus est marqué par l'obéissance ? Ou est-ce que vous vous êtes là ce matin et vous savez que vous désobéissez à ses commandements ? Ou est-ce que votre cœur vous dit « Il faut que je change ce qu'il dit pour que je puisse faire ce que je veux faire plutôt que d'obéir à ce qu'il me dit de faire ?» Est-ce que vous êtes ici ce matin avec un sentiment d'être obéissant ou désobéissant ? Encore une fois, prenons une ou deux minutes et permettons au Saint-Esprit de fouiller nos cœurs.
Hope-filled challenges. Disciples are worried, and Jesus reminds them.
Challenge rempli d'espoir. Les disciples sont inquiets, mais il leur rappelle de aimer Dieu avec tout ce qu'ils ont, de suivre ses commandements et ses orientations. C'est ça l'orientation de leur vie. Il leur donne un sens de quoi faire dans telle ou telle situation, parce qu'il leur a appris tellement de choses sur ce que ça veut dire marcher dans l'amour. Et un troisième challenge ici, Jésus dit oui, je m'en vais physiquement, mais je reviens. Et il est bon pour moi de partir, parce que si je pars, le Saint-Esprit va venir. Et il y a des choses vraiment radicales dans ce passage qui parle d'une relation profonde et indescriptible et puissante qu'il veut avoir avec nous. Il dit des choses comme « Le Saint-Esprit demeure en vous. Il reste avec vous et il demeure en vous. » Nous avons parlé du fait que Jésus ne parle pas d'un esprit humain que chacun possède. Il parle du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité divine, qui vit à l'intérieur de ceux qui sont devenus disciples de Jésus. Il dit des choses comme « Vous saurez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » C'est une chose mystérieuse, mais Jésus décrit quelque chose de réel. Il en dit « Ceux qui ont mes commandements au cœur et les gardent, c'est ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment seront aimés de mon Père et moi je les aimerai aussi. Je me révélerai à eux. Je me montrerai, je me révélerai à eux. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Et
pas seulement cela, mais si quelqu'un m'aime et garde mes commandements, le Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous demeurerons en lui et chez lui. Ce sont des choses profondes et personnelles et relationnelles. Et quand je dis ça, pour moi, on dirait que Jésus dit « Je te connaîtrai et on se connaîtra mutuellement encore plus quand je serai parti que maintenant. » On dirait que Jésus n'est pas en train de parler d'une théorie, mais d'une réalité de le connaître. Il dit qu'on peut connaître Jésus d'une manière plus réelle, encore mieux qu'on peut connaître la personne assise à côté de nous. Il dit dans le chapitre 15, « Demeurez en moi et moi en vous. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toutes les vérités. Il sera actif et travaillera en vous pour vous révéler tout ce que je vous ai dit. » Il y a des choses vraiment radicales qui se passent là. Il parle de ce que nous saurons par expérience. On le saura au plus profond de nous-mêmes. On pourra le connaître vraiment. Depuis la Réformation, il y a eu plein d'enseignements dans les églises protestantes sur comment est-ce qu'on arrive dans une position légale, on va dire réglementaire, pour être OK aux yeux de Dieu. Mais on ne veut pas, trop souvent, on est resté à un aspect, un niveau technologique ou légal de cette idée d'être justifié aux yeux de Dieu. Mais si on lit le Nouveau Testament, si on le lit vraiment avec attention, il parle d'une relation, d'une personne à une autre, une relation qui continue, que vous et moi pouvons avoir avec Dieu. Qui est réel et qu'on peut expérimenter, pas juste dans la théologie ou dans notre doctrine. C'est une vraie relation entre vous et Dieu. Et en fait, la plupart du Nouveau Testament n'a pas de sens si ce n'est pas réel. Dans Romains, la lettre aux Romains, Paul écrit « Parce que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. » On dirait pour moi que le Saint-Esprit est une personne qui me guide et je le suis. C'est pas juste une nébuleuse qui se balade, mais le Saint-Esprit est une personne, une entité que je suis. On lit aussi, si je vis par l'Esprit, alors que je reste en contact de l'Esprit, nous savons que l'Esprit vient vivre en nous, et c'est une réalité, c'est pas une théorie. Il vient en nous, et il est là en réalité. Et Paul demande dans Éphésiens, à l'église d'Éphèse, est-ce que vous avez expérimenté le Saint-Esprit depuis que vous croyez ? Il vient dans leur église, dans leur réunion d'église, et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Il y avait plein de bonnes idées, mais cette dynamique, ce sens de la présence du Saint-Esprit n'était pas là. La conséquence, c'est que c'était comme une coquille vide, cette église. Et Paul leur dit, non, il y a un truc qui ne va pas, là. Il ne dit pas, oh, vous devriez vraiment devenir croyant. Il leur dit, non, vous devez recevoir, ouvrez vos cœurs au Saint-Esprit. Et nous pouvons parler de pourquoi ils étaient dans cette situation, si vous voulez, mais la réalité, c'est qu'ils étaient disciples de Christ, mais ils n'avaient pas expérimenté l'activité du Saint-Esprit dans leur vie, dans leur vie de tous les jours. Et donc Paul prie et les guide vers cette expérience. Et Jésus nous demande de faire la même chose, il nous pose la même question aujourd'hui. Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit dans notre vie de manière active et concrète ou pas?
Let's pray.
Prions. La troisième vérité qui est remplie d'espoir, c'est que nous pouvons connaître cet esprit qui demeure en nous, que nous allons être dirigés par lui. Toutes ces choses que Jésus enseigne pour préparer ses disciples à son départ.
Et
vous savez, je pense que si j'étais un des disciples, après 3 ans, je serais devenu plutôt confortable avec l'idée de voyager avec Jésus, plutôt à l'aise de voyager avec Jésus. Je me souviens que quelqu'un voyageait avec ma mère. Ma mère a une mauvaise hanche, elle a du mal à marcher, elle boite. Et par conséquent, quand elle voyage, elle a la priorité à l'enregistrement de l'aéroport, en sécurité. Elle passe devant la file de partout parce qu'elle a ce handicap.
Et
je pense que tout voyager avec Jésus, c'était un petit peu comme voyager avec ma mère. Après avoir vu nourrir des milliers de personnes, est-ce que vous allez vraiment vous soucier de savoir ce que vous allez manger? Ah, c'est bon, Jésus va s'en charger.
Getting in a boat.
Ou alors, monter dans une barque, vous voyez la tempête est arrêtée par Jésus, juste en disant « Ouais, c'est bon, tempête,
dis-moi,
est-ce qu'on va se méfier du temps quand on voyage ?» Si vous êtes autour de personnes malades, est-ce que vous allez vous inquiéter de devenir malade alors qu'il a guéri des milliers de gens ? Non plus, non. Ça va être bien. Donc, ils avaient ce confort. Mais Jésus va s'en aller. Qu'est-ce qui va se passer ? Et une des choses que je suis sûr qu'ils ont ressenti, c'est de la peur et l'incertitude. Et ça nous amène au quatrième et challenge. Très souvent dans ce passage, plusieurs fois dans ce passage, Jésus leur dit, ne laissez pas vos cœurs être troublés.
Do not let them be afraid.
Ne soyez pas
effrayés.
Ne soyez pas troublés.
They're looking at their future.
Ils regardent leur futur.
They're worried. They're troubled. They're afraid. And Jesus says, no, 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 no.
Jésus leur dit non, 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 non.
There's no need for that.
Il n'y a pas besoin d'être effrayé.
There's no need for you to be troubled.
Vous n'avez pas besoin d'être troublé ou effrayé.
Instead, trust in me.
Au lieu,
believe in me.
Confiant.
I am working.
Croyez en moi. Je suis à l'œuvre. Je vous tiens dans la paume de ma main. Ne soyez pas effrayés.
How many of us say, well, that's easier said.
Et combien d'entre nous vont dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. On voit toutes ces choses, toutes nos circonstances de nos vies, et on se dit, mais super, mais comment ça va fonctionner pour moi ? En arrivant dans parfois un point de désespoir. Seigneur, comment ? C'est une situation difficile. Mon cœur est troublé. Je suis effrayé. Alors comment est-ce que je suis supposé suivre ce que Jésus dit ici ?
Et
il nous donne certaines instructions ici qui sont on peut rater facilement, mais premièrement, priez spécifiquement. Seigneur, donne-moi ton point de vue sur ma situation. Je vois ce que je connais mon point de vue sur ma situation, je la connais, mais donne-moi ton angle de vue. Et c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà été perdu, moi j'ai déjà été perdu.
Et
c'est comme dire,
ok, bon,
il faut que j'allume mon GPS sur mon téléphone. Ah, maintenant, j'ai un autre point de vue de où je suis, parce que je peux suivre le plan. Tout d'un coup, j'ai une différente point de vue de ma situation, parce que je suis connecté au GPS. Et de la même manière, quand nos cœurs commencent à être troublés, quand nous commençons à avoir peur, nous devons demander à Dieu, donne-moi ton point de vue sur ma situation actuelle. Parce que son point de vue à lui est radicalement différent du nôtre. Et il a la vraie perspective, le vrai point de vue sur notre situation. Il vous dit, par exemple, du type, vous pensez que je pars et vous êtes effrayé, mais en fait, je vais préparer une place pour vous parce que vous êtes l'épouse fidèle de l'Église. Oui, il y a pas mal d'hélicoptères ce matin, alors on va prier parce qu'il y a un truc qui se passe. Mais Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe avec ces hélicoptères médicaux, peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous prions, Seigneur, pour que quoi que ce soit, que tu sois avec les personnes qui sont dans cette crise. Seigneur, que tu sois avec les personnes dans les salles des urgences. Seigneur, que tu sois avec les familles des gens qui ont été touchés. Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, ministère auprès d'eux, et que quelque part dans cette situation médicale, souvent un accident de voiture ou quelque chose comme ça, que tu sois vraiment... Que tu révèles ton pouvoir et que tu te glorifies dans cette situation, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Jésus dit à ses disciples, vous savez quoi ? Vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des problèmes, mais j'ai vaincu ce monde. Paul est en prison à Rome. He's sitting in prison in Rome. Il est en prison à Rome. Unable to do his church planting ministry. Il n'est pas capable de continuer son ministère d'implantation d'église. Il y a des églises qui commencent à vaciller à droite à gauche. Mais en plus, il y a des faux enseignants qui commencent à apparaître et qui commencent à voler son ministère, qui essayent de rentrer dans ces églises et de voler ses brebis. D'une certaine manière, et dans la lettre aux Philippiens, il a le point de vue de Dieu. Au lieu d'avoir peur ou d'être désespéré alors qu'il est en prison à Rome, il est sûrement sous une sentence de mort, il est sûrement condamné à mort, il dit cela. Dans Philippiens 1, verset 12, «
Je veux que vous sachiez,
je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Je suis en prison, mais devinez quoi ? C'est une super opportunité de parler de Jésus au gardien de prison. Oui, il a une différente... angle de vue sur sa situation. Et pas seulement ça, mais en plus, les gens entendent que je suis en prison et ils savent que c'est pour Jésus et ils prennent courage pour leur propre foi. C'est génial. Certains prêchent. La plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Et d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Et Paul dit, mais je me réjouis. Il a un angle de vue divin sur sa situation. Et nous voulons prier pour qu'il nous arrive la même chose, que nous puissions avoir le point de vue de Dieu et que ça change notre point de vue à nous sur notre situation et que ça change nos cœurs.
Changer de perspective.
Et deuxièmement, nous pouvons lire et écouter la parole de Dieu. Nous devons nous immerger dans les Écritures. Les Écritures qui nous révèlent qui Dieu est et ce qu'il a promis. Pensez à ce que Jésus a dit. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez de ce que vous allez manger ou porter? Regardez les fleurs des champs. Regardez comme elles sont belles. Et ce sont juste des fleurs qui vont vivre un temps et mourir après. Vous êtes bien plus important que ces fleurs des champs. Dieu va vous habiller. Il va vous donner à manger. Regardez les oiseaux du ciel. Dieu leur fournit aussi de la nourriture pour chaque jour. Il fera de même avec vous. Alors, ok Seigneur, je ne vais pas m'inquiéter de tout ça. Alors nous lisons et nous écoutons ce que Dieu a à nous dire sur qui nous sommes également, que nous sommes ses bien-aimés, qu'il nous appelle ses enfants et qu'il prend soin de nous. Et ça commence à construire notre foi. Et nous devons également prier, nous focaliser sur ce qui est bon et obéir. C'est le passage de Philippiens 4.
Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Je ne sais pas à combien de personnes j'ai parlé qui sont vraiment effrayées de plein de choses, et alors que je leur parle, ils font plein d'inquiétudes, mais pas beaucoup de prières. Ils s'inquiètent beaucoup, mais ils ne prient pas beaucoup. S'inquiéter beaucoup et penser à un problème tout le temps, ça ne fait pas une prière. Ce n'est pas la même chose que de parler à Dieu. Donc s'inquiéter, ce n'est pas pareil que prier. Et je vous encourage vraiment, quand on est inquiet, de ne pas juste y penser, mais de les remettre à Dieu, de nommer chacun de ses problèmes et de les confesser et d'être d'accord avec Jésus sur le fait qu'on est inquiet et qu'on lui remet tout. Et Paul dit que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement va vous garder en Jésus-Christ, alors que nous prions pour ces situations.
But that's not all he says.
Mais c'est pas tout ce qu'il dit.
He says, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, pure, lovely, commendable.
Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, qui est synonyme de qualité morale, tout ce qui est digne de louange. Gardez à l'esprit tout ce qui est bon, tout ce qui est positif, alors que trop souvent on se laisse influencer par toutes les choses négatives. Nous devons penser aux choses positives. Pensez à Paul, il est en prison, il va être con, il est probablement condamné à mort. Et lui, il voit l'opportunité de parler aux gardes de prison.
Oh, man, people are trying to horn in on my ministry. They're trying to steal.
Zut, alors, les gens vont voler mes brebis, vont apprendre des mauvaises choses aux nouveaux chrétiens. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus est proclamé. Il pense intentionnellement aux bonnes choses qui se passent autour de nous. Et quand nos cœurs commencent à être troublés, nous devons vraiment nous discipliner pour regarder aux bonnes choses, de regarder aux choses excellentes, de regarder aux choses que Dieu fait dans nos vies, même si elles paraissent toutes petites, nous devons nous concentrer sur ces choses. Pas seulement cela, mais il leur dit ce que vous avez reçu, entendu et vu, faites ces choses.
Et le God of peace will be with you.
Mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Toutes ces choses que vous m'avez vu faire et entendu dire, mettez-les en pratique. Continuez à obéir. Faites les choses que Dieu vous a appelées à faire. Continuez à les faire. Et ensuite, le Dieu de paix sera avec vous. Et vos cœurs troublés seront calmés. Donc, priez premièrement pour Dieu qu'il révèle son point de vue. La foi vient quand on écoute la parole de Dieu et ensuite on doit prier, se concentrer sur ce qui est positif et obéir. Reprenons encore un moment et permettons au Seigneur d'exercer son ministère auprès de nous, de lui remettre toutes nos peurs.
Jesus, thank you for these four hope-filled challenges.
Merci, Seigneur Jésus, pour ces quatre challenges remplis d'espoir. Le challenge de t'aimer. Merci parce que tu nous demandes de t'aimer, tu nous demandes de t'obéir. Merci parce que tu nous challenges de marcher avec toi et d'apprendre à te connaître. Merci parce que tu nous mets face au challenge de connaître ta paix dans toute situation. Seigneur, que ces challenges puissent guider nos vies et glorifier ton nom à travers nous, au nom de Jésus. Amen.